Jusqu'au 17 décembre, le Théâtre aux Écuries accueille de nouveau la bande du Théâtre du Futur avec la reprise de son succès « Le clone est triste ». Et ça me fait très plaisir d'en parler avec les deux auteurs, les deux comédiens, Olivier Morin, Guillaume Tremblay. Olivier Morin qui signe aussi la mise en scène de ce spectacle qui connaît beaucoup de succès. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Le clone est triste, pourquoi ce titre très bien trouvé en passant? C'est quoi l'histoire?
Ben, en fait, comme son nom l'indique, il est question de clones, de clonage. Le Théâtre du futur crée des spectacles dont l'histoire se déroule tout le temps dans le futur, un espèce de futur, des fois qui est plus proche, des fois qui est plus loin. Là, on est vraiment autour de 2065. Et puis,
vous êtes loin,
le clonage,
là.
Oui,
ouais, dans une quarantaine d'années.
Oui. Ouais. Et donc, le clonage a été légal pendant une petite fenêtre de rien du tout, puis a été de nouveau... déclaré illégal. Et entre-temps, il y a eu des grandes inondations, des grandes catastrophes, et puis ça prenait un coupable, des grandes catastrophes écologiques. Donc, on a dit, c'est la génération des baby-boomers au grand complet qui est coupable de cette histoire-là, ce qui fait que symboliquement, on décide de shipper tous les derniers survivants baby-boomers sur la Lune. Eux qui ont tellement rêvé de la Lune dans les années 60. Alors, c'est comme une façon de tourner la page pour faire, bon, là, maintenant, on peut repartir avec une table rase. Et là, il semblerait, en 2065, que malgré tout, il reste un baby boomer. Alors là, il y a une équipe d'enquêteurs mondains qui décide de faire la lumière sur la question pour mettre la main sur le dernier baby boomer.
Le dernier baby boomer qui s'appelle Gilles Douillette?
Oui. Qui s'appelle Robert Douillette, en fait, c'est ça. C'est que comme il y a des clones, tous ces clones portent le même nom de famille, Douillette, qui est un nom très, très courant, bien entendu.
Alors, vous avez vraiment une imagination débridée. C'est arrivé comment l'idée de cette écriture, de l'écriture de cette pièce de théâtre-là? Et dites-nous un peu le processus, là, parce que vous écrivez à deux. Là, j'ai entendu Guillaume, je pense, Guillaume Tremblay?
Non, c'était Olivier
qui parlait. Alors, peut-être Guillaume?
Ben oui, ben, au départ, ce projet-là... on voulait faire une pièce... mettons, je peux vous parler un peu du processus. Là, au départ, on voulait vraiment faire une pièce. On est parti d'un lieu, d'un espèce de salon un peu mondain. Donc, on savait que ça serait dans le futur, mais on ne connaissait pas tout le sujet à 100%. Puis, on voulait faire ces espèces de marquis-là. Disons que c'est la génération, disons les jeunes en ce moment de peut-être 20 ans, ça serait comme leurs enfants, là, dans le fond. Mm-hmm. C'est une génération qui rejette les valeurs de leurs parents. Donc, ils n'aiment pas les ordi, ils n'aiment pas les téléphones. Ils veulent faire des salons de poésie. Puis ils veulent vraiment être ensemble. Puis ils veulent pas travailler non plus. Là. C'est la semaine de travail de 3 heures. Là. C'est vraiment de se cultiver. Puis ça, maximum. Fait que c'est vraiment... ça se sent un peu... sont à la fois cultivés, mais aussi comme complètement libres.
Est-ce que vous les qualifieriez de paresseux?
Ben oui, tu sais, dans un sens, mais tu sais, il reste des êtres humains quand même, puis mais c'est une génération vraiment étrange, c'est presque la cour de Louis XIV.
Là. Est-ce que ce sont vos fantasmes à vous, Olivier Morin et Guillaume Tremblay?
En fait, ce qui est drôle, c'est que les personnages se retrouvent un peu dans une drôle de posture, dans la mesure où, comme il y a une espèce d'automatisation du travail, ils ne travaillent plus tellement, ils sont un petit peu condamnés au loisir à perpétuité, ce qui fait que pour tuer le temps, ils s'inventent une job d'enquêteur, puis ils font un petit peu les Columbos du dimanche.
Ah, ils travaillent quand même.
Oui, mais c'est ça, mais par dépit.
Hein. C'est pour s'amuser. Là,
oui,
c'est par dépit,
toujours le plaisir qui est le leitmotiv.
Oui, parce que maintenant, on s'ennuie, puis à force de trop s'ennuyer, est-ce qu'on joue au croquet? Est-ce qu'on fait des charades? Puis eux, ils font plutôt, ils jouent au Sherlock Holmes, et c'est eux qui partent à la recherche un peu des détails entourant toute l'histoire de Robert Douillette. T'sais. Puis Robert Douillette, lui, évidemment, c'est ça, un peu comme Olivier disait, il a caché des clones de lui-même un peu partout au Canada ou dans le monde pour... être immortel, puis aller chercher un foie, un rein, un cœur, un œil, tu sais, quand ça fonctionne.
Oui, oui, oui.
Fait que c'est un peu ça, l'enquête. Voilà.
Et Olivier, vous signez la mise en scène, vous portez plusieurs casquettes pour ce spectacle-là. Vous jouez, vous l'avez écrit, co-écrit avec Guillaume. Et quel genre de mise en scène vous proposez au public?
Bien, c'est très, très dynamique, en fait. On avait envie d'avoir une proposition qui soit très, très théâtrale. On a des musiciens aussi sur scène. On a Nadé Confi, qui fait partie de la compagnie du Théâtre du Futur. On a aussi Gaëlle Lane-Lépine, qui est un pianiste classique, et Marie-Claude Guérin. Et puis, on avait cette envie-là d'être sur scène, de pouvoir bouger beaucoup, chanter beaucoup. Les maquillages, le décor, tout est très, très théâtral. Ce qui fait qu'on n'est vraiment pas dans une espèce d'approche de théâtre documentaire avec un petit micro, puis on vient se confier. On est dans quelque chose de super exubérant. Ce qui fait qu'on est tout le temps sur une patte, en train de faire une pirouette, une roulade, une chanson, un truc. Ça a l'air fast comme ça, là, mais c'est très agréable et très, très drôle aussi. Je veux dire, c'est une comédie, là, ma foi... impitoyable.
Alors, le clone est triste, mais la pièce est drôle.
Oui, oui. Exact.
Et il y a aussi Franz Schubert, Agatha Christie, Sherlock Holmes qui vous ont inspiré là, dans l'écriture de cette pièce.
Oui, ben, c'est au niveau de l'esprit un peu victorien dans cette histoire-là où on se dit que s'il ne fait pas beau dehors, ben là, on est un peu comme condamné à tenir salon. Donc, cette espèce de vue de l'esprit que avoir une soirée raffinée entre amis, finalement, c'est de réciter des poèmes par cœur, de faire un petit morceau de piano. Donc, les éléments qui nous venaient en tête, ben c'est un petit peu ça. C'était des soirées de Agatha Christie dans un manoir où il pleut, puis tout d'un coup, il y a un meurtre.
Oui, c'est là, c'est un retour vers le passé.
On n'a pas inventé un genre. Oui, c'est ça, exactement, oui, oui. Mm-hmm. Pour tourner le dos, finalement. On est toujours... Une grosse réflexion aussi sur le passage d'une génération à l'autre. Chaque génération est toujours en rupture avec celle qui est avant. Donc, comme le nommait tout à l'heure Guillaume, si les enfants étaient très, très technologiques, leur renversement voudrait que leurs enfants à eux soient complètement... tournent le dos à ça. Là.
Et pourquoi vous avez eu envie de parler des baby boomers?
Ben, c'est nos parents.
Oui.
Ouais, c'est ça. Puis c'est une belle génération aussi, tu sais, c'est comme ça.
Ben, oui.
C'est des grands rêves, puis leur dichotomie est très grande. D'un côté, c'est facile de... Ils ont été très, très, très présents, puis ils ont été aussi dans l'espèce de boom technologique qu'a connu la planète. Donc, ils ont fait le pont un peu entre la deuxième ère industrielle puis qui mène jusqu'à aujourd'hui, puis la technologie, tout s'est développé de façon exponentielle, mais aussi il y avait des rêves, tu sais, je me rappelle mon père puis mon oncle, tu sais, qui était assez peu de moyens puis tout ça, puis à l'époque ils étaient assez pauvres, mais eux ils rêvaient d'aller sur la lune, là, tu sais, moi mon père, son frère est allé étudier en ingénierie, puis mon père en textile, puis le but c'était que là il y avait mettons 20 ans, mais leur but c'était qu'à 27, 28 son frère construit une fusée puis mon père des sous. C'est comme parce que tout était possible. Fait que, c'était vraiment la génération il y avait comme plus de bout. Fait que d'un côté c'est merveilleux puis c'est aussi Woodstock, c'est aussi l'invention de la musique, des machines par les Beatles, des sons différents, tout ce qu'on entend aujourd'hui. T'sais, c'est comme si c'est un peu après moi le déluge, là, ils ont comme tout inventé. Puis d'un autre côté eux ils savent puis ils te disent. Puis d'un autre bord, tu sais, t'es comme, tu sais, c'est vraiment lassant là, pour nous, leurs enfants. Fait, on les taxer un peu, mais aussi les aimer. Tu sais,
c'est lassant pourquoi?
Ben, c'est lassant parce que, tu sais, n'importe quelle génération qui se dit, après moi le déluge, là, tu sais, on parle, c'est toujours un petit peu fatigant pour la génération d'après qui a l'impression qu'il ne pourra rien inventer, tu sais, c'est un peu une vue de l'esprit.
Ouais. Eux autres ont été aussi beaucoup la génération qui, à part la force du nombre, avait de la job à l'infini, avait des opportunités à l'infini. Puis toute leur vie, finalement, ils ont représenté la majorité. Alors, quand ils avaient 20 ans, qui étaient pleins d'espoir et d'une espèce d'utopie, c'est une chose. Mais ce monde-là vieillit, ont encore la force du nombre. Puis, ben, je veux dire, leurs espoirs se sont partiellement calcifiés, puis ont, hypothéqué les espoirs puis les opportunités des générations qui les ont suivis. Ce qui fait que, ben, tu sais, tout ça, c'est plein d'amour, là, la génération des baby-boomers, on les adore, mais ça vient quand même avec une petite taquinerie, là.
Oui, oui, oui.
Ça fait toujours plaisir. Mais on taquine aussi beaucoup la génération X, la génération Y. Ce qu'on taquine, en fait, c'est le plus, c'est le jugement qu'on peut avoir d'une génération à l'autre.
Et vous, Olivier et Guillaume, vous faites partie de quelle génération? Ben, vous dites que vos parents étaient des baby-boomers, donc vous êtes quoi des...
Je sais pas, on est nés en 80, les deux. Fait que,
80.
Ouais.
Je sais pas.
Oui.
Des X? Non, des X, je pense.
sais pas.
Ben, ça dépend de la source. Moi, je pense qu'on est comme à la sortie. Moi, on a toujours grandi avec l'idée que non, les X, c'est genre vos grands cousins. Puis
ouais,
là, les X, dépendant de la source. Non, ça va jusqu'à 80, mais moi, j'ai jamais. En tout cas, c'est une révélation de cette année là, que je pourrais pas.
J'ai jamais embarqué là-dedans.
Non, OK.
Est-ce
qu'il y a des baby boomers qui se déplacent, qui se sont déplacés pour assister à votre pièce?
Oh, oui.
Ouais?
Non, Jean-François Lisée était là mardi.
Ah oui?
Deuxième rangée.
Deuxième rangée. Non, est-ce qu'il a ri?
Oui. Mais juste une reprise, le spectacle, on a déjà joué beaucoup.
Oui.
Donc, il y a beaucoup, ça a été, là, c'est Baby Boomer Approved. Là. Il y a beaucoup de public, de gens du public de cet âge-là qui sont venus et qui sont revenus, qui ont aimé. Puis, généralement, ils sont très contents parce que, effectivement, ça vient avec beaucoup de taquinerie, ça vient avec beaucoup d'amour. Puis, je veux dire, on parle d'eux. Alors, forcément, ils sont ravis.
Ben, ouais. C'est sûr. Et puis, il y a un livre. Oui, allez-y.
Toute la musique est très classique parce qu'on a un piano à queue sur scène, tout ça. Et, aussi la musique de Navet Confit et de Gaël, mais dans chaque morceau, il y a toujours des petits morceaux cachés qui viennent de l'époque.
Des petites références, des clins d'œil.
Aux Beatles, tu sais, à Woodstock, à ça. Fait que,
Beau dommage.
Charme de Silence, Jacques Brel, Beau dommage.
Ah, ben, finalement, vous faites une sorte de déclaration d'amour aussi au Baby Boomer.
Oh, absolument.
Ouais.
Oui.
Ouais. Alors, Le clone est triste est aussi disponible en livre. Il n'y a pas de musique dans le livre, mais c'est une autre expérience.
Oui, si on fredonne assez un peu, ça.
Ah oui. Aux éditions Ta Mère, c'est paru il y a quelques temps, en 2020, je crois.
Oui. Oui.
Alors, ça a été un plaisir de parler avec vous. Vous nous donnez juste envie d'aller voir la pièce. J'espère que les gens vont se précipiter. Pour ceux et celles qui ont manqué la pièce jusqu'à maintenant, ils peuvent se reprendre jusqu'au 17 décembre. C'est au Théâtre aux Écuries. Et on vous espère aussi ailleurs. Pourquoi pas une tournée à travers le Québec?
Who knows?
Ah, c'est un gros décor quand même.
Un gros décor.
Ah oui?
J'ai pas de chance, là, je viendrai directement aux Écuries.
Ou en pièce virtuelle?
En pièce virtuelle, il faut y avoir une captation qui a été faite, mais je veux dire, c'est pour rien pour circuler.
Ouais,
non, le mieux, c'est de venir le voir
ou
de le lire.
Il n'y a rien de mieux que l'art vivant ou la littérature, voilà. Qui est vivante aussi.
Un pantalon là, autour d'un petit foyer avec un vermouth, il n'y a rien de mieux.
Ah oui, ou une crème de menthe verte?
Entre amis.
Merci beaucoup, Olivier Morin, Guillaume Tremblay. Le clone est triste. Merci. Allons le voir et peut-être le consoler, même si c'est une comédie. Au plaisir.
Mm-hmm. Merci, au revoir.